Bien. Dernière partie, je vous promets, c'est bientôt fini. Donc, sur une nouvelle ligne de recherche qui cherche à investiguer les interactions entre les modèles neuroscientifiques et le fonctionnement corporel. Donc, on ne peut pas le reprocher, mais la plupart des modèles mettent complètement de côté le fonctionnement extra-cérébral, notamment même au plan cérébral, l'input interoceptif ou corporel. Et son influence dans la maladie. Or, évidemment, tous ceux qui ont déjà consommé de l'alcool dans la salle sont au courant que l'alcool a un effet évidemment cérébral, mais aussi un effet corporel, et on a des sensations, et je pense que vous pourriez les décrire, quand on consomme de l'alcool, on a des sensations corporelles qui participent, qui pourraient participer en tout cas, à l'ensemble des processus addictifs, ou notamment au renforcement positif, une sensation qui peut être négative de chaleur, de brûlure ou de légèreté, de décontraction, etc. Et donc l'objectif ici, c'est de voir comment l'interoception, c'est-à-dire la capacité à ressentir, interpréter et utiliser ces sensations corporelles, peut être un déterminant de l'addiction. Donc c'est l'ouverture, évidemment, encore une fois, on n'est pas les seuls, hein, c'est quelque chose qui se développe, mais qui n'est pas encore intégré dans les modèles, de l'idée du trouble sévère de l'usage d'alcool comme aussi une maladie du corps et une maladie des sensations corporelles. D'un point de vue de neurosciences, l'INSULA est identifié comme un hub au niveau interoceptif, et il y a un modèle qui a maintenant une dizaine d'années, qui est le modèle triadique, qui ajoute aux deux systèmes, donc le système de contrôle et le système, pour faire simple, et le système impulsif, un troisième système, un système interoceptif centré sur l'insula, qui serait un intermédiaire entre ces deux systèmes et qui faciliterait alors, soit l'équilibre entre les systèmes, soit dans l'addiction, le déséquilibre entre les systèmes, avec des afférences corporelles qui viendraient perturber l'équilibre entre ces deux systèmes. Le problème du modèle un des problèmes du modèle triadique, c'est qu'il y a très peu de preuves empiriques sur le rôle réel de l'insula au niveau cérébral, mais aussi de l'interoception au niveau plus comportemental sur l'addiction et sur son maintien. Et donc, ce qu'on veut faire avec Pauline Billot, qui est dans la salle et qui n'a plus 12 ans, contrairement à l'âge qu'elle avait sur cette photo, et Olivier de Smet, et puis d'autres personnes aussi, Joël Billieu par exemple, c'est tester un modèle où on va d'une part essayer de voir quelles sont les sensations corporelles qui sont ressenties par les patients, notamment dans différentes situations, en consommation, mais aussi quand ils ont envie de boire, qu'ils en sont privés, ou en sevrage, quand ils sont privés d'alcool, et comment ça peut influencer le trouble d'usage d'alcool, mais en retour aussi, comment le trouble sévère d'usage d'alcool va modifier ses capacités interoceptives et venir moduler les sensations corporelles, et avec peut-être potentiellement un cercle vicieux entre une déconnexion corporelle et un maintien de la pathologie. Donc l'objectif, qui est ambitieux et qui n'est pas évidemment notre apanage, c'est de faire entrer l'interoception et les sensations corporelles dans les modèles neuroscientifiques des addictions. Je vais juste vous donner en 5 minutes deux illustrations. On a une approche de neuroimagerie qu'on conduit en parallèle avec l'équipe d'Anne Lhospital et avec Chalandra Segobin, où on tente de caractériser les déficits structurels et fonctionnels de l'insula, et puis une approche plus comportementale. On va essayer de comprendre, d'investiguer les sensations corporelles ressenties par les patients. Donc, au niveau de l'approche de neuroimagerie, ce qu'on a fait jusqu'à, enfin, ce qu'ils ont fait, moi, je n'ai pas fait grand-chose jusqu'à présent, c'est d'explorer. L'idée, c'est que l'insula est déficitaire, et donc ce qu'on a voulu observer, c'est. L'insula a un grand nombre de fonctions et peut être parcellisée en différents sous-maillots. Ce qu'on a voulu faire, c'est explorer si les différentes capacités de l'insula et leur base anatomique étaient différentiellement touchées dans le trouble sévère de l'usage d'alcool. Et donc, on a exploré 6 régions, mais qui se rapportent à 3 sous-régions fonctionnelles. Donc, l'insula postérieure qui est supposée recevoir l'input brut du corps, donc les sensations corporelles brutes. Ensuite, ces sensations corporelles sont traitées par, c'est vraiment un résumé évidemment, par la partie médiane de l'insula qui va intégrer ces sensations avec d'autres sensations issues d'autres sens que simplement l'input interoceptif. Et puis finalement, l'insula antérieure va aller vers une conscientisation de cet input corporel et envoyer le signal vers des régions vers les régions corticales qui vont traiter ce signal corporel et l'intégrer dans l'expérience générale corporelle. Et donc, l'idée était de voir si, de manière simple, si les déficits interoceptifs étaient liés à un problème très précoce dans l'input, c'est-à-dire est-ce que l'information émotionnelle ne parvient pas de manière correcte à l'insula, ou est-ce que c'est plus tard, quand on intègre ça avec d'autres informations sensorielles ou avec d'autres informations cognitives émotionnelles, que le déficit est présent. On a appliqué cette méthode donc simplement de volumétrie chez les patients avec un syndrome de Korsakoff et des personnes avec un trouble de l'usage d'alcool. Ce qu'on a pu observer, c'est que le déficit est surtout dans la région postérieure de l'insula, donc celle qui est liée aux étapes basiques initiales de traitement interoceptif. Et donc l'idée maintenant, c'est de se dire que visiblement, chez les patients, il y a dès le départ un manque d'input ou une réduction, même si c'est purement structurel jusqu'ici, une réduction de l'input corporel. Et donc, il y a moins d'informations sur le fonctionnement corporel qui arrivent chez ces personnes, avec l'hypothèse que même ça pourrait être un déficit qui est antérieur à l'insula. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est explorer le fonctionnement, c'est-à-dire ça, c'est la structure. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quelle est l'intensité de l'activité insulaire et de ces différentes sous-régions quand les personnes font réellement une tâche interoceptive? C'est-à-dire quand on leur demande explicitement de se concentrer sur les signaux corporels, que ce soit des signaux cardiaques, que ce soit des signaux interoceptifs d'autres parties du corps. Donc on va leur demander de se. Et c'est un travail qui est en cours, à cause principalement de la lenteur de Pauline, hein, bien entendu. Non, c'est pas vrai, elle travaille très bien. Bravo Pauline, félicitations. Mais donc, on va essayer maintenant de partir de dépasser cet aspect structurel pour aller vers un aspect fonctionnel ou en IRM fonctionnel, pour voir comment l'activation insulaire est préservée ou non chez les patients quand ils ont une tâche interoceptive. La deuxième approche, c'est de se dire, visiblement, ce que ces résultats nous montrent et d'autres, c'est l'hypothèse d'une déconnexion corporelle, c'est-à-dire que les patients seraient déconnectés de leurs sensations corporelles. Donc, ce qu'on a voulu tester, encore une fois, avec Pauline et l'équipe de Caen, c'est l'idée que de se demander comportementalement, et de manière très phénoménologique, ce que les patients sont capables de ressentir. Et l'approche qu'on a prise, c'est de se centrer sur un critère classique dans les addictions, qui est le craving. Notre hypothèse, notre question, c'est de se dire, les patients semblent déconnectés de leurs sensations corporelles, mais est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils ont la capacité de encore de ressentir et d'exprimer consciemment des sensations liées au corps. Et on a voulu illustrer ça par le craving. Parce que le craving, on en a parlé, mais c'est un critère central dans les addictions. Mais la façon dont c'est déterminé comme critère diagnostique, c'est quelque chose de très cognitif. C'est-à-dire que on va demander aux patients, c'est l'item du DSM, cette envie irrépressible, est-ce qu'elle est liée à des pensées, à des obsessions et des compulsions, mais quelque chose de très cognitif. Or, le craving, on peut faire l'hypothèse que c'est aussi quelque chose de corporel, c'est-à-dire quand on a envie quand on a très faim ou quand on a très envie de fumer, on a des sensations corporelles qui sont réelles et qui influencent le craving. Or, les questionnaires disponibles pour le craving, et c'est illustré par une excellente revue de littérature à laquelle Nicolas Cabé a participé, je pense, utile. Bravo. Je félicite tout le monde, je suis un peu le Michel Drucker de la science. Mais ça, c'est les items qui évaluent le craving, et on voit que les items spécifiquement liés à l'état physiologique, c'est-à-dire les sensations corporelles liées au craving, ben, c'est quelques items sur l'ensemble des questionnaires. Donc, c'est quelque chose qui est une variable qui est largement négligée dans les mesures du craving. Ce qu'on a utilisé pour mesurer ces sensations corporelles liées au craving, c'est les body maps. Body map, pour faire simple, on présente ce type de schéma aux patients, vierges, donc il y a juste les corps et les têtes, et on va leur demander ici de donner ou d'illustrer les sensations corporelles liées à un phénomène. Donc on peut mesurer via ces body maps. Le patient fait des croix, par exemple, il va dire j'ai ressenti pour un phénomène X une chaleur forte au niveau du dos, et on peut mesurer grâce à ces body maps le type de sensation, donc une chaleur, une tension, un tremblement, les régions du corps qui sont concernées, bien entendu, l'intensité de la simulation, de la sensation, en fonction du nombre de croix ici, et puis l'agréabilité, est-ce que c'était une sensation très désagréable ou est-ce que c'était une sensation très agréable? Ce qu'on a fait, c'est appliquer ça chez les patients, Donc, chez une centaine de patients en cours de désintoxication, on leur a demandé, essayez de vous souvenir de la dernière fois où vous avez ressenti un craving très fort pour l'alcool, une envie irrépressible de consommer de l'alcool. Quelles étaient les sensations corporelles que vous pouvez rapporter? Évidemment, il y a des biais ici, puisque les patients en sevrage ont rarement du craving, donc ce n'est pas ce que vous ressentez à ce moment-ci, c'est vous souvenir d'une sensation passée. Mais ce qu'on observe, c'est que les patients sont capables de rapporter des sensations, et notamment rapportent surtout des sensations dans les mains, sur la tête et au niveau du thorax et des épaules. Ces sensations, elles sont très majoritairement négatives, palpitations, tremblements, transpiration, et elles sont assez peu variées ou élaborées. Si on regarde ce que les patients rapportent ici, c'est des sensations typiquement dans la gorge, étouffement, envie de vomir, assèchement, tension, donc des sensations qui sont assez peu diverses et qui sont toutes ou très majoritairement très négatives. On pourrait se dire, c'est normal, le craving, c'est toujours quelque chose de négatif, mais à vrai dire, on a fait la même étude chez des binge drinkers, donc des étudiants, en leur demandant aussi, en induisant ici un craving et en leur demandant leurs sensations. Et là, on voit deux choses. D'une part, chez ces binge drinkers, donc des étudiants gros consommateurs, mais qui ne sont pas dépendants, on a beaucoup plus de sensations diverses rapportées. Et aussi, au-delà des sensations négatives, tension, assèchement, on a des sensations qui sont agréables, relâchement, déjà la sensation d'avoir de l'alcool, etc. Ce que ça illustre, c'est déjà l'utilité des Bonimab, qui n'est pas un outil parfait, mais qui est un outil qui permet d'explorer, et je ne pense pas que ça a été fait largement dans la littérature antérieurement, d'explorer les sensations autorapportées, c'est-à-dire ce que la personne est capable de ressentir. Donc, elles permettent d'identifier les sensations corporelles de craving. Les sensations sont présentes, mais elles sont négatives et très majoritairement négatives chez les patients, alors qu'elles sont en partie positives chez les binge drinkers. Donc, c'est une autre illustration via les sensations corporelles, donc hors du fonctionnement cérébral, du passage potentiel du renforcement positif, c'est-à-dire je consomme parce que l'envie est quelque chose de positif, ça m'amène des sensations positives, versus le renforcement négatif, je vais consommer parce que j'ai beaucoup de sensations négatives quand je ne consomme pas et j'ai une envie de consommer qui est liée à la volonté de réduire ces sensations corporelles ici négatives. Et donc la conclusion de tout ça, c'est juste de dire que ça peut paraître évident, mais à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose dans la littérature là-dessus, que le craving, ce n'est pas qu'une notion cognitive, ce n'est pas que des pensées, que des obsessions, que des compulsions, c'est aussi des sensations corporelles qui peuvent l'influencer, le maintenir et influencer plus globalement l'addiction. Donc, c'était le dernier exemple, j'arrive tout de suite, c'est le dernier exemple que je voulais donner, donc de la neuropsychologie intégrative pour explorer les liens entre le cerveau et le corps et offrir en l'occurrence une mesure des capacités interoceptives